C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, revenons sur l'éclipse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a tous vécu ça, soit à la maison, soit au travail, ou encore on s'est déplacé pour aller voir l'événement. Mais il y avait vraiment quelque chose de spécial hier, de voir ce phénomène qui, on le sait tous, est d'une rareté. La prochaine éclipse solaire totale aura lieu à Montréal le 17 juillet 2205. Il y aura des éclipses partielles. Il y a d'autres éclipses totales dans le monde, j'y reviendrai. Mais on savait tous que c'était une occasion unique. Je vous fais entendre quelques réactions de gens qui s'étaient comme ça regroupés au parc Jean-Drapeau.
Incroyable, magnifique.
Expérience de vie?
Incroyable.
Amazing, fou.
Ben, je pense que c'est le truc d'une vie, là. Ouais. C'est, on vit ça qu'une fois.
C'est que d'émotion.
Admirable. Ouais, inoubliable.
C'était incroyable. La première fois que je vois ça et la dernière. C'est un événement unique. Ça m'a traversé la tête. Je croyais que j'étais dans une autre planète.
On se pensait dans un film de science-fiction avec un éclairage unique, une baisse des températures. On a tous senti le froid. Et une luminosité tout à fait différente de ce qu'on peut retrouver. Et on va parler avec des experts tantôt pour approfondir le phénomène. L'éclipse totale pour Montréal, c'est à peu près une minute et demie. Ça a été ultra rapide. Je regardais ailleurs, il y avait des couvertures nuageuses, notamment à Niagara, qui ont un peu, altéré l'expérience. Mais pour l'essentiel, c'est une occasion extraordinaire de voir les humains sortir. On a eu pendant la pandémie, pendant cette période de confinement, des regroupements extérieurs un peu parfois. Mais là, je voyais les gens hier, en tout cas dans mon coin, sortir avec leurs chaises de parterre, s'installer avec les lunettes et observant le phénomène. Et puis au parc Jean-Drapeau, on vient d'en parler, il y a eu ce moment avec Diane Dufresne, très bref, mais quand même beaucoup d'émotion.
Tu vends pas la beauté du monde. Faisons de la terre un grand jardin.
C'était une source de frissons, je pense qu'on peut le dire, sans se tromper. Donc, si on résume, partout au Québec, les gens se sont rassemblés à l'extérieur. Bénédicte me disait que même au palais de justice, les juges essayaient de synchroniser la pause avec l'éclipse en disant on va ajourner le procès pour permettre aux gens de sortir et d'aller voir donc ce qui se passait. Je vous le disais, du côté de Niagara, il y a eu quand même, et c'était un des endroits les plus fréquentés là au Canada, les gens qui ont fait la navette pour se rendre là, les hôtels qui débordaient, c'est sûr qu'il y a eu quand même pas mal de nuages, mais quand même, ça a pu donner lieu à une certaine observation pour les gens qui étaient sur place. Alors, on a vu ça, là, ce corridor partant du Mexique, le Texas, des États du Sud des États-Unis. Par la suite, le Québec, et évidemment, ça s'est terminé dans les Maritimes. Et quelqu'un hier disait, c'est une belle image, cette éclipse qui s'amorce sur les plages du Mexique et qui passe par les chutes du Niagara. Alors, ça vous montre un peu, je dirais, la grandeur de cet événement. Et pour ce qui est du Canada, prochaine éclipse qui pourrait être observé, c'est en 2044. Il y aura d'autres éclipses en 2026, notamment en Europe. On peut penser à l'Espagne et l'Islande. Et on sait tous que les chasseurs d'éclipses, et hier j'avais une pensée pour mon ami Paul Hood, qui nous aurait décrit ça avec une perfection absolument spéciale. Donc, il y a des gens qui vont se déplacer, qui ont un calendrier de voyage, justement, en fonction des éclipses. Et ce matin, ça arrive avec la publication d'un rapport de Copernicus sur le réchauffement de la planète. Et quand on parle de réchauffement de la planète, on le sait tous, là, que je regarde les températures, là, 16-17 degrés. En même temps, je suis allé voir le tableau d'Environnement Canada. La journée où la température a été la plus élevée, c'est en 1945, 23 degrés. Là où ça a été le plus froid, c'est moins 13 degrés en 1977. Tout ça pour dire, il faut pas regarder une journée, un mois, une année. Il faut regarder une tendance. Et les chiffres rendus publics ce matin par Copernicus nous montre qu'encore une fois, il y a un record de température qui a été établi pour le mois de mars. Les 12 derniers mois, donc la dernière année, a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Et la tendance se maintient. Juillet 2023, c'était le mois le plus chaud dans l'histoire. Et on a vu les températures exploser, notamment en Europe, mais ailleurs, mais surtout avec des effets. Et quand vous regardez les conséquences de ce réchauffement de la planète, on le voit avec des pénuries d'eau qui touchent des pays comme le Vietnam, qui touchent des pays comme la Zambie. Même en Italie, il y a eu des enjeux de précipitation. Le Mexique également, on craint de manquer d'eau à un certain moment. Il y a eu aussi des quantités de pluie, des cas d'inondations en Russie, Brésil, France, absolument remarquables. Donc, tout ça pour dire que pendant l'éclipse, et on observait, je dirais, à la fois la splendeur, puis aussi le fait qu'on est devant l'univers, puis tu regardes en même temps les changements de température et ce que ça implique dans notre quotidien. Donc, je pense que c'est important de faire le lien ce matin entre ces deux événements. Et c'est sûr aussi que hier, les gens se sont déplacés. Fred disait, dans le métro, l'objectif, se rendre au parc Jean-Drapeau, tu t'aperçois qu'il y a tellement de monde, ça n'a pas de bon sens. Les gens qui ont pris le pont Jacques-Cartier, le pont Champlain hier, des parcours du combattant, parce que c'est comme si tout le monde dit, OK, c'est en Estrie, hier, c'était vraiment le point central, le mégantique. Ben tout le monde décide d'y aller. Fait qu'il est 11h30 midi, on va se rendre là. Et ça crée un immense bouchon. Ça a pris du temps aux gens qui étaient au parc Jean-Drapeau pour quitter. C'était assez comique hier. On a demandé à la Sûreté du Québec de nous dire, bon, pourquoi vous avez pris telle mesure, puis venez expliquer ça aux gens, puis les bouchons. Puis là, ils nous renvoient à la Société des ponts. Puis la Société des ponts nous renvoie à la Sûreté du Québec. Ça, c'est toujours pareil dans ces cas-là. Donc, c'est assez rigolo. Mais il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu d'enjeu. Si ce n'est donc des bouchons quand même assez intenses en circulation. D'ailleurs, on peut le dire, Marc, là, notamment à la station Jean-Drapeau, là, oui. C'était compliqué.
Oui, c'était compliqué. Même la police qui a fermé les accès du pont Jacques-Cartier, les bretelles de sortie pour le pont Jean-Drapeau. Compliqué à la grandeur du territoire, mais je dirais surtout pour sortir en direction de l'Estrie. Hier, là, j'en parlais tantôt, mais je vais vous le répéter parce que ça frappe l'imaginaire. Le corridor du pont Champlain, c'était à partir de la 40, de la métropolitaine, donc au tout début de l'autoroute des Caries, jusque sur la rive sud au niveau de la 30. C'était pas arrêté sur toute la distance, mais très, très au ralenti, et ce n'est qu'un exemple. Il y a eu en plus une panne au tunnel Louis-Polyte Lafontaine hier, en plein au moment où les gens voulaient sortir de l'île. Alors là aussi, énormément de problèmes, et je surveillais la 13, même chose, direction au sud, tout le territoire de Laval, depuis la rivière des Mille-Îles jusqu'à Montréal, jusqu'à l'autoroute 20. C'était une procession de véhicules, bref, ça prenait pas mal de patience, et ceux qui sont partis plus tard, malheureusement, n'ont peut-être pas pu se rendre à destination.
Merci beaucoup. Je termine le volet météo-climat avec une décision qui a été rendue ce matin par la Cour des droits de l'homme, la Cour européenne, et qui blâme la Suisse d'avoir échoué dans ses politiques pour contrer les changements climatiques. Il y avait trois causes entendues, une concernant la Suisse, une autre la France, et il y avait une troisième, je pense que c'est également le Portugal qui était mentionné. Mais dans la cause, et ça a été rejeté. Dans la cause suisse, ce qui est intéressant, ce sont des personnes de 65 ans et plus, c'est un groupe de femmes, en disant, vous avez échoué, vous êtes blâmées. Pourquoi? Parce que pour les personnes âgées, le réchauffement climatique est particulièrement sévère. Et on le sait, quand il y a des vagues de chaleur, ce sont les gens qui sont parmi les plus vulnérables. Évidemment, ça peut paraître très symbolique, mais ça s'inscrit dans une mouvance de personnes plus âgées, de plus jeunes, qui veulent mettre de la pression pour que les pays puissent, évidemment, avoir des politiques plus musclées pour essayer de mieux encadrer ces changements. On ne pourra pas renverser la vapeur, mais s'adapter et faire en sorte qu'on puisse au moins ralentir la production de gaz à effet de serre. Ailleurs dans le monde, Gaza, c'est important. Il y a peut-être un espoir de cesser le feu, mais ça demeure extrêmement fragile pour la libération d'otages. Le premier ministre Netanyahou a dit hier, nous avons 40 000 tentes pour les réfugiés. Ils sont au-delà de 1 million dans le sud. L'objectif de frapper Rafah, donc d'envahir Rafah, demeure. Il y a une date qui a été déterminée, il n'a pas dit laquelle, mais cette opération pour éliminer le Hamas va se poursuivre malgré les pressions de la communauté internationale. Il y a comme une pause actuellement avec le retrait des troupes israéliennes et il y a des Palestiniens qui tentent de revenir dans certains coins de la bande de Gaza pour découvrir quoi? C'est une destruction inimaginable. Notre collègue Jean-François Lépine le décrivait très bien hier. Quand vous voyez ces amas de béton, ces structures qui ont été complètement ravagées par les tirs de l'armée israélienne. Et c'est pas fini. Et hier, Netanyahou, qui demeure fragilisé sur le plan politique, prétend encore que c'est une guerre qui va se poursuivre, même si ça fait déjà au-delà de 6 mois. Et puis, un mot également sur l'avortement. Les élections de novembre aux États-Unis sont majeures. Et hier, le président Trump a pris une position qui a polarisé tout le monde concernant l'avortement. Il a dit, et juste une parenthèse, il s'est, dans sa vie publique, prononcé sur l'avortement en portant les deux chapeaux. Il a déjà dit qu'il était un pro-choix. Quand il est devenu candidat plus sérieux à la présidence, il y a eu une pression exercée par ce qu'on appelle des militants anti-avortement. Il a même accepté de nommer Mike Pence comme vice-président, qui, lui, il n'y a pas de doute, là, c'est un anti-avortement. Alors, qu'est-ce que Trump a dit hier? Je laisse ça dans la cour des États. Ce qui fait que c'est un pays à géométrie variable. Et pas question, donc, qu'il y ait une législation nationale ou un jugement national qui vienne déterminer ce que les États veulent faire en matière d'avortement. Ça veut dire quoi, en pratique? C'est que les femmes vont magasiner non seulement leur clinique d'avortement, mais l'État où ça peut être pratiqué. Et même Trump dit, dans le cas d'un viol, par exemple, je reconnais que le droit à l'avortement doit exister, ce qui n'est pas le cas de plusieurs lobbies, donc anti-avortement. Dans les nouvelles chez nous, quelques éléments étranges ce matin. S'entends-tu pour dire qu'il y a eu une grève dans le secteur de l'éducation au Québec l'automne dernier? Que les profs membres de la Fédération autonome de l'enseignement ont débrayé pendant une vingtaine de jours. Et là, on prépare les bulletins. Et ce qu'on découvre, quand vous regardez les bulletins des différentes écoles, c'est dans la presse de ce matin, là, des centres de services scolaires de Montréal et de Marguerite-Bourgeois, on additionne les jours de classe des 3 étapes inscrites au bulletin, puis on arrive à une année normale, 180 jours. Tu disais peu, là. Il n'y a pas eu 180 jours de classe. Les journées n'ont pas été reprises. Il y en a eu 22 de moins. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Tenez-vous bien, voici l'explication. Alain Perron, qui est le porte-parole du Centre de services scolaires de Montréal, dit que le nombre, écoutez bien ça, là, le nombre de jours de classe mentionnés au bulletin fait référence à des jours de calendrier entre le début et la fin de l'étape et non des jours de fréquentation. On nous prend pour des imbéciles, encore une fois. Alors, si votre enfant était absent, par exemple, pour une raison de santé, gastro, l'absence va être notée, mais le fait qu'on ait biffé 22 jours dans le bulletin, ça, ça compte pas. Parce que c'est de telle date à telle date, et une journée de grève, c'est pas comme une journée maladie. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Il semble que le ministère de M. Drainville demande qu'il y ait des correctifs. Et on se retrouve avec un chiffre magique, parce qu'on a modifié à cause de la grève, c'est 156 jours de classe au Québec. Puis là, je comprends qu'il y a eu le mode rattrapage, puis le tutorat, le mentorat, tout ce que vous voulez, mais sérieusement, vous imaginez ces taux de passe-passe quand même au ministère de l'Éducation. Radio-Canada, pour ce qui est de la santé, là, on est dans la cour des médecins de famille. Il paraît que les négos sont pas simples avec le ministère de la Santé. Mais les médecins de famille demandent au gouvernement de renoncer à un projet de règlement. Ils ont envoyé une mise en demeure au ministère de la Santé, au ministre direct, il y a quelques semaines. C'est que c'est un règlement qui, d'après les docs, les empêche d'accepter spontanément de prendre en charge une personne qui se présente à leur bureau par le service sans rendez-vous, même celle provenant du guichet d'accès à la première ligne. Il semble qu'il faut prioriser les gens inscrits sur la liste du guichet d'accès à un médecin de famille. C'est parce que là, on a 2 guichets. On a le guichet d'accès à la première ligne, puis le guichet d'accès à un médecin de famille. Alors que si tu prends celui qui se pointe parce qu'il a été référé par le guichet d'accès à la première ligne, faut remplir un formulaire. Là, on vient d'expliquer qu'on veut alléger les tâches de paperasse des médecins. Et là, il y aurait comme un ajout. Par exemple, vous êtes une mère, vous avez votre médecin de famille. Mettons que vous avez un enfant. Est-ce que le médecin de famille peut prendre votre enfant? C'est pas clair, disent-ils. Là, je sais que la gang de Christian Dubé qui nous écoute va nous envoyer un petit mémo tantôt. Mais c'est encore là une lourdeur de la machine bureaucratique. L'autre chose ce matin, Radio-Canada, Thomas Gerbin nous dit que les fonctionnaires qui avaient étudié le projet Nordvolt et surtout de voir l'impact inconnu de l'implantation de telles usines au Québec recommandaient qu'il y ait une audience, des audiences du BAP. Et le ministre est passé par-dessus. Et ils ont changé la réglementation pour justement permettre qu'il n'y ait pas de BAP et accélérer le projet de Nordvolt. Nordvolt, là, c'est pas compliqué. Arrive une entreprise, un investissement majeur, l'investissement le plus spectaculaire des dernières années au Québec, et c'est une course contre la montre, et la compagnie fait sentir à Québec que si vous voulez l'usine, il faut accélérer les procédures. Et vous avez tout le débat autour de ça, sur est-ce qu'on a sauté des étapes. Et le ministre Benoît Charrette semble encore celui qui est le ministre poids-plume dans ce gouvernement. Ses fonctionnaires lui disent, on pense qu'il faut aller voir l'impact de ce projet. Et lui, du pas nécessaire, il a mis ça de côté. Donc, vous pourrez voir ça ce matin. Il y a aussi une enquête concernant les achats par les cégeps des produits Amazon. Je comprends tout ça, c'est les Coables Info qui ont fait ça, là. Puis on découvre que on achète des séries québécoises comme La Petite Vie ou Les Belles Histoires des Pays d'en haut par le biais de transactions sur Amazon. Et c'est tout le débat là entre Amazon puis le commerce local. Là, on parle de 2 millions en 2023 pour l'ensemble des cégeps. On est-tu d'accord pour dire que c'est quand même pas là une fortune? Quand je voyais l'autre jour 10 000 là, 15 000 là. Puis il y a des cégeps qui ont dépensé plus, puis d'autres à peu près rien. Mais c'est cette discussion qu'on a. Puis c'est pas parce que c'est pas disponible dans le coin, c'est pas parce que c'est plus cher. C'est peut-être un réflexe, donc, ou un geste plus facile là, de commander directement sur Amazon. Ça fait le tour de nos manchettes ce matin.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan.
Évidemment, l'éclipse qu'on a pu observer hier, ça a provoqué toutes sortes de réactions et je dirais, pour l'essentiel, espèce de dose de bonheur qui fait du bien dans une société qui, on le sait, vit des moments difficiles sur le plan économique, des politiciens qui lancent un appel au calme, redevenons un peu plus civilisés. Mais hier, que vous étiez soit dans un parc, sur la rue, chez vous, dans la cour, à observer ce phénomène, le changement de température, de lumière, ça a provoqué une espèce de moment d'émerveillement. Et comme me disait un auditeur, je comprends mieux maintenant pourquoi il y a des passionnés d'éclipses. On va revenir sur l'événement d'hier. Premier invité ce matin, Pierre Chastonnet, qui est astronome et qui est aussi professeur à l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Chastonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez attiré notre attention hier avec vos observations sur les animaux. Première question, comment se sont-ils comportés?
Ah ben ils vont très bien, ça vous inquiète. Ils se sont très bien comportés. Je vous rappelle, on observait 12 espèces animales au zoo de Granby. Julie Hébert du zoo de Granby et moi-même étions attitrés aux macaques. Et donc, à partir de 14 heures, nous nous sommes installés devant l'habitat des macaques. Malheureusement, on n'a pas vu l'éclipse, ni elle ni moi, parce que nous étions sous un toit qui nous empêchait de voir le soleil. On a eu des moments pour aller jeter un petit coup d'œil, mais on n'a pas pu le suivre en continu, comme des gens, par exemple, qui étaient au parc Jean-Drapeau. Les macaques eux-mêmes se sont comportés de manière tout à fait normale jusque vers 15h20, où là, la luminosité commençait à baisser suffisamment qu'ils sentaient que quelque chose se passait. Et ce qui était très spectaculaire et vraiment très, très beau à voir, c'est que les animaux se sont tous installés en hauteur sur des branches, sur des roches, dans leur habitat. Ils se sont tous tournés dos au soleil, ils se sont recroquevillés comme s'ils se préparaient à passer la nuit. Et sincèrement, lorsque la totalité est arrivée et qu'il s'est mis à faire très, très noir, moi, j'avais l'impression d'avoir devant moi une procession de moines bouddhistes en train de faire du zen. C'était calme, il n'y avait pas un son. Ça a duré 3-4 minutes jusqu'à ce que la lumière revienne. Les macaques se sont mis à vocaliser beaucoup, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés des cris les uns des autres. De mon point de vue anthropomorphiste, c'est un peu comme s'ils se demandaient « mais qu'est-ce qui vient de se passer au juste? » Ça a pris à peu près 5 minutes avant qu'ils reprennent leurs activités. Puis à la fin de la journée, ils vaquaient à leurs occupations comme si de rien n'était. Donc ça a vraiment été un très, très beau moment que j'ai vécu avec Julie Hébert au macaque.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que en aucun temps, il y a eu comme une certaine panique ou une peur ou un moment d'énervement.
En effet, puis je vous dirais que ça m'amène en tant que chercheur à mettre en lumière ou à mettre en question certaines des conclusions qui ont été tirées dans des études précédentes menées dans des zoos. Je pense entre autres à une étude qui a été menée en 2017 aux États-Unis auprès de 25 ou 30 espèces animales dans un zoo. Et tous les animaux rapportaient, ou on rapportait que tous les animaux avaient eu des comportements qui s'apparentaient à de la nervosité, à un certain malaise, et ainsi de suite. Puis on n'a pas vu ça au zoo de Granby. Les autres espèces animales qu'on a observées au zoo se sont aussi comportées de manière tout à fait normale. Puis la différence entre ce que nous, on a fait hier au zoo de Granby et ce qui était fait dans les autres zoos ailleurs dans le monde, c'est que le public n'était pas admis au zoo. Et donc, les animaux dans leurs habitats n'étaient pas entourés par des dizaines ou des centaines de personnes qui se mettaient à hurler, puis à crier, puis à taper des mains durant l'éclipse. Et je pense que ça a fait une grosse différence. Fait que peut-être que ce qu'on a découvert au zoo de Granby hier, c'est que, dans le fond, les comportements un peu étranges qui sont rapportés dans les études menées dans les zoos, ce sont plus des réactions des animaux aux réactions des humains à l'éclipse que des réactions des animaux à l'éclipse elle-même. Donc ça, c'est évidemment, c'est très préliminaire ce que je vous dis là. On a encore des dizaines de milliers de données à analyser, mais disons que ma première impression en tant que chercheur, c'est vraiment qu'on vient peut-être de voir pour la première fois le véritable comportement des animaux lors d'une éclipse.
Je vous lance des pistes de réflexion, puis vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut, à partir de ce que vous venez de nous dire, là, croire que les animaux dans leur habitat naturel auraient eu même un comportement peut-être encore plus naturel, c'est-à-dire donc d'aller se recroqueviller et d'aller dormir parce que le soleil se couche, donc sans la pression, par exemple, d'un zoo, encore avec une population, être pas trop dérangé par l'éclipse?
Moi, je pense que ce que l'on constate dans d'autres études, puis qu'on a vu aussi hier dans le comportement des macaques, entre autres, essentiellement, ils s'installaient pour dormir. Quand je parle de se recroqueviller en hauteur, c'est ce que les macaques font l'été au zoo de Granby lorsqu'ils passent la nuit dans leur habitat. Je pense que ce qu'on voit ressortir, c'est vraiment des comportements très naturel de la part des animaux qui, lors de arrivé à la fin de la journée, s'installent pour dormir. On a remarqué chez les autruches, puis ça, ben, encore une fois, j'étais pas sur place, mais c'est ce qui m'a été rapporté par mes collègues observateurs, observatrices. Les autruches et les lophophores, qui sont des espèces de grosses perdrix, ont eu des comportements plus nerveux. Mais ça, c'est normal parce que pour les oiseaux, en fin de journée, ça correspond à un moment où les prédateurs peuvent les menacer. Et donc, il y avait là, encore une fois, une réaction tout à fait normale à un moment de la journée qui, pour eux, peut être critique jusqu'à un certain point. Donc, tout ça mis bout à bout, ce que ça m'amène à dire, c'est que en l'absence d'êtres humains, dans une situation où les animaux se comportent de manière normale, dans une situation anormale comme celle d'une éclipse, c'est vraiment le comportement de se préparer à la nuit qui domine chez les animaux qu'on a observés.
Et l'autre chose que j'allais dire en conclusion, c'est quand on regarde les comportements humains à une époque où il n'y avait pas d'informations scientifiques, où l'humain était devant ce phénomène sans nécessairement trop de préparation, il y avait de l'angoisse, de la peur, de la panique, parce que on voyait le soleil disparaître. Tandis que les animaux, ce que vous décrivez, eux, ont vu ça comme un signal d'aller se reposer.
Exactement, exactement. Mais là, les humains ont un niveau de curiosité puis une perception du monde qui est quand même plus aiguë que celle des animaux, en tout cas plus approfondie que celle des animaux. Donc, c'est un peu normal que nos ancêtres, et là je parle d'il y a quelques dizaines de milliers d'années, avaient des comportements de panique parce que c'était vraiment grave ce qui arrivait. Le soleil s'en allait. Le soleil, c'était la source de la vie. C'est ce qui faisait pousser les plantes. C'est ce qui nous maintenait en vie. Donc, c'est un petit peu normal que nos lointains ancêtres aient eu cette réaction-là qui a essentiellement cessé lorsqu'on a été capable, autour du 6e siècle avant notre ère, de calculer la récurrence des éclipses. Et là, le phénomène est devenu moins effrayant parce que prévisible. Et on se disait qu'il y avait peut-être un système d'horlogerie quelque part là, qui mettait tout ça en œuvre, ce qui est effectivement le cas quand on regarde ça avec nos yeux modernes.
Merci beaucoup, M. Chastonnet. Bonne journée.
Je vous en prie.
Au revoir. Pierre Chastonnet, astronome et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Maintenant avec nous, Marie-Ève Nault, qui est astrophysicienne à l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Nault.
Bonjour.
Comment s'est passée votre journée?
Dans une très, très grande intensité, très haut niveau d'émotion, mais en même temps, un certain recueillement, je dois dire, en étant au sommet du Mont Mégantic, tout près, dans le fond, à côté de l'observatoire du Mont Mégantic, où moi, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps pendant mes études là, à la maîtrise. Ça aspirait à quand même un certain calme. C'était tellement beau, le paysage, déjà en début de journée. Puis pendant l'éclipse, c'était absolument magnifique. C'est ça qui m'a frappé le plus, moi, en fait, là, la beauté de tout ça, de cette journée.
Parlez-moi de la réaction des enfants.
Oh mon Dieu, c'est passé toutes sortes de choses avec mes enfants, mais il n'y avait pas tant d'enfants que ça avec moi. Les miens, j'ai pu constater que mon plus jeune était dans un état de bonne humeur, d'exaltation jusqu'à un certain point. Il était très heureux. Mon plus vieux, il s'est mis à pleurer pendant la totalité. Ça faisait des semaines qu'on l'attendait. Donc, pour lui, c'est comme un peu si l'émotion débordait là, à ce moment-là. Il avait très, très peur de manquer le début de l'éclipse. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, je crois, pendant une éclipse, autant chez les plus jeunes que chez les plus vieux. Ça appelle des émotions assez intenses.
C'est intéressant ce que vous dites parce que, bon, il y a tout le volet scientifique, il y a l'observation du phénomène, on s'y prépare. Puis vous avez parlé d'entrée de jeu d'une espèce de moment de recueillement. Ce que beaucoup de gens ont dit hier, au-delà là, de l'éblouissement, là, il y avait aussi une prise de conscience de l'environnement, du ciel. Puis comme je disais, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas mal mieux ce matin pourquoi vous êtes des passionnés.
Oui, puis c'est vrai que on a beaucoup de chance de faire le métier qu'on fait parce que, tu sais, comme moi, par exemple, hier soir, là, j'étais encore au sommet du Mont Mégantic dans ce magnifique lieu qui est une réserve de ciel étoilé. Donc, il n'y a pas de pollution lumineuse là, jusqu'à un certain point. Le ciel est tellement magnifique, là, c'est dur à décrire. Ça m'a tiré des larmes là, de voir le ciel. Parce que à quel point on le voit plus ce ciel-là, à quel point on est déconnecté de notre ciel. À Montréal, là, je les compte les étoiles, je les connais, je sais c'est quoi leur nom, parce que je me dis c'est les dernières étoiles du ciel, là, faut que je les connaisse. T'sais. J'ai l'impression que si les gens pouvaient voir, là, c'est ça, l'éclipse donnait la capacité à tout le monde de le voir parce que c'est tellement lumineux, c'est tellement intense comme phénomène que ça permettait de rejoindre les gens puis de leur partager un peu de notre émerveillement pour le ciel, pour la nature. Je suis contente que plusieurs personnes aient pu vivre ça, mais j'espère vraiment beaucoup que les gens puissent le vivre au quotidien parce que c'est un spectacle que la nature nous offre tous les jours, en fait.
Mais pour la première fois depuis très, très longtemps, hier, je dirais pas que tout le monde a observé l'éclipse, mais pas loin. C'est de voir les gens sortir, les gens partir vers le parc, vous à Mégantic, puis ailleurs au Québec, et ailleurs dans le monde, on l'a vu à partir des plages du Mexique jusque dans les chutes Niagara. C'est quand même une forme, j'appelais ça, de cohésion sociale, de solidarité. Je sais pas l'expression exacte, mais fait longtemps qu'on n'a pas vu ça.
Ça fait vraiment du bien, en effet, puis je suis contente que vous le souligniez parce que moi, c'était une des choses que je trouvais porteuse là, avec cet événement-là, puis ce qui fait que j'ai décidé d'y dédier autant de temps, autant d'énergie, toute ma passion, parce que je me disais, c'est un beau moment à vivre ensemble. Il y a tellement de choses qui nous divisent au quotidien, puis des fois, je me dis, on se ressemble plus qu'on pense, tu sais, dans nos différences. Là, je fais de la philosophie à Saint-Saëns, vous pardonnerez, mais je suis encore un peu sur le flot de cette émotion-là. Mais on se ressemble plus qu'on pense, les humains. Puis on est tous ensemble sur ce petit vaisseau spatial qui est notre toute petite planète Terre. J'ai l'impression que si les gens pouvaient vivre ce genre de moment-là un peu plus souvent, on laisserait de côté nos différents, l'espèce de polarisation qui est tellement omniprésente dans notre société pour se rendre compte qu'on est tous ensemble là-dedans. Puis se serrer les coudes, puis pouvoir avancer ensemble, puis résoudre certains des défis qu'on a devant nous.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous et ce matin et les autres fois également. Ça a été très apprécié.
Un gros merci pour votre invitation.
Merci. Marie-Ève Nault, qui est astrophysicienne à l'Université de Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
On va parler d'accès à un médecin de famille. C'est un sujet qui revient régulièrement. Radio-Canada nous dit ce matin que beaucoup de médecins de famille au Québec se demandent comment, avec un règlement que Québec impose, là, ils vont pouvoir prendre en charge des patients. Vous savez, au Québec, on peut pas faire les choses simplement. Il y a deux guichets qui existent. Vous avez le guichet d'accès à la première ligne et le guichet d'accès à un médecin de famille. J'en parle avec le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le docteur Marc-André Amiot. Docteur Amiot, bonjour.
Bonjour.
On va prendre ça simplement ce matin. Vous êtes médecin, je suis un patient. Je suis pas un de vos patients, mais j'ai pas de médecin. Je veux aller vous voir. Comment je m'y prends?
Ben, vous faites le 8 en 1, option 3, et là, il y a une infirmière qui... Il y a une préposée qui va prendre vos coordonnées. Après, il y a une infirmière qui va évaluer votre besoin et vous orienter vers le meilleur professionnel qui peut solutionner votre problème. Parfois, c'est le médecin. Parfois, c'est un autre professionnel. C'est ça, le gap. Et initialement, le gap, il devait y avoir 50% des appels qui pouvaient trouver réponse vers d'autres professionnels. Alors que là, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas, là. Dans certaines régions, ces autres professionnels-là autour ont pas vu le jour. Donc, on finit dans le bureau du médecin. Ça l'optimise pas le travail des médecins, ça. Nous, on a toujours dit, là, il faut travailler... il faut répartir les besoins de la population sur d'autres professionnels que seulement les médecins de famille, puisqu'il y a une pénurie d'au moins 1200 reconnus par le ministère, au moins une pénurie de 1200 médecins de famille.
OK, mais je veux comprendre, là. Ça veut dire que si je téléphone à ce numéro-là pour le guichet d'accès à la première ligne, c'est que j'ai besoin de voir un médecin ou un professionnel, là, mais mettons un médecin, là. Mm-hmm. L'autre guichet, celui d'accès à un médecin de famille, c'est une façon de me trouver un médecin de famille en général, mettons, pour des suivis, parce que le mien a quitté, etc., etc. Oui?
C'est une liste d'attente. C'est une liste d'attente, le guichet d'accès à un médecin de famille. C'est des gens qui lèvent la main pour dire, moi, j'aimerais ça avoir un médecin de famille. Puis là, je vous dis ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que pour avoir accès au GAP, faut être inscrit au guichet d'accès à un médecin de famille. Mais sur le guichet d'accès à un médecin de famille, sur la liste d'attente, là, il y en a qui en veulent pas de médecin de famille, puis qui en ont pas besoin, mais qui veulent avoir accès au GAP. Alors, pour avoir accès au GAP, faut être inscrit au guichet au guichet d'accès à un médecin de famille.
OK, mais et moi, je veux juste comprendre une affaire, là. Parce que là, il y a deux guichets, OK? Lequel passe en premier?
Bien, le guichet d'accès à la première ligne, ça, c'est fonctionnel. C'est quand vous avez besoin de service, vous appelez là. Pour le guichet d'accès à un médecin de famille, ça, c'est tout simplement une liste d'attente. Puis les patients sont envoyés aux médecins quand il y a des médecins qui commencent leur pratique ou qui disent, là, moi, je faisais de l'hôpital ou peu importe. Puis là, je m'en vais travailler en cabinet. Lèvent la main puis disent, envoyez-moi-en 250, envoyez-moi-en 500. C'est pas les médecins qui choisissent, là. C'est le guichet qui prend la liste de patients puis qui envoie la liste de patients aux médecins. Bon, là, faut savoir, comme je vous disais tantôt, il y en a là-dedans qui en veulent pas de médecin de famille. Fait que là, la liste est envoyée au médecin de famille. Là, le médecin de famille tente de rejoindre les patients. Il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas, il y en a qui ont été pris en charge. Tu sais, c'est quand vous dites c'est complexe, là, je vous le dis, mes docteurs, ils me le disent, là, c'est complexe, ça n'a pas de bon sens.
Mais là, ce que je comprends de l'article de Radio-Canada, c'est que les médecins doivent prioriser les gens inscrits sur la liste du guichet d'accès à un médecin de famille.
Exactement. Mais vous savez que quand un médecin travaille dans son bureau, là, il voit des patients malades. Là. Puis d'ailleurs, les médecins de famille au Québec, là, 43% de leur clientèle, c'est des patients vulnérables. Donc, de penser dans la population que les médecins de famille s'occupent de patients pas malades, ça, tout à fait vrai.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous prenez pas en priorité le guichet d'accès à un médecin de famille, vous prenez quelqu'un d'autre, vous devez remplir un formulaire?
Exactement. C'est là que ça devient compliqué. Puis le règlement, là, c'est exactement ça qu'il dit. Et ce que ça va faire, nous, ce qu'on dit au gouvernement, là, ça va décourager les docteurs. Ils les prendront tout simplement pas, là. Ils appelleront pas au guichet de docteur, là, qui a son lot de patients, là, qui a 1500 patients, qui en a déjà par-dessus par-dessus la tête de la paperasse des laboratoires qui travaillent le soir, le dimanche matin pour faire ces laboratoires. Quand il voit un patient dans son bureau qui se dit « Ouf, celui-là, là, je vais le prendre en charge. Là. Il a tellement besoin de soins, il est tellement malade. Je vais le prendre en charge. » Mais là, il va être obligé de communiquer avec le coordonnateur, de remplir un formulaire, de demander. Alors, c'est de la paperasse supplémentaire. Puis, l'autre élément, quand les patients vont leur demander « Vous me prendriez pas? » Ben là, ils vont être obligés de leur expliquer. Là, faut, je pourrais, mais là, ça prend un formulaire, c'est long, c'est complexe. C'est pas du temps patient, ça.
Mais l'autre affaire, là, ce règlement-là est pas encore en vigueur.
Non.
Là, le ministère, là, au cabinet de M. Dubé, on va me dire, c'est une mauvaise interprétation des médecins, pas ça pantoute, ils exagèrent.
Ben, écoutez, moi, lisez-le, le règlement, là, puis dites-moi où ce règlement-là améliore l'accès. Quand on me dit, il va y avoir des exceptions, OK, le médecin va avoir besoin d'avoir la liste des exceptions à côté de lui. Bon, le patient qui est en face de moi, il remplit-tu les exceptions? OK, il remplit les exceptions. Là, je vais pouvoir demander au coordonnateur. Comprenez que cette lourdeur administrative-là, ça va décourager les médecins, puis ça décourage les médecins de faire de la médecine familiale. De plus en plus, de médecins disent hey, « Moi, toutes ces paperasses-là et ces formulaires-là, je préfère aller au privé. » C'est pas ce qu'on souhaite, là. C'est pas ce qu'on veut. Je préfère aller au privé. Il y en a, après un certain âge, qui disent « Moi, ça me décourage, je vais prendre ma retraite prématurément. » On veut pas ça. On a besoin de ces docteurs-là pour offrir le service. Mais ça l'envoie un message négatif.
OK, mais au moins pour les membres d'une même famille, là, mettons que vous êtes mon médecin, vous êtes le médecin de ma femme, j'ai deux enfants, vous occupez de mes deux enfants, puis on a un troisième enfant, vous allez vous en occuper automatiquement?
Non, pas automatiquement, c'est une exception, ça.
Mais pourquoi c'est une exception?
Ah, ben là, écoutez, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est au ministère, c'est au ministre, c'est au gouvernement. Moi, nous, ce qu'on lui dit, là, c'est peut-être beau sur papier quand vous regardez ça, mais ça passe pas le test de la réalité. C'est ce qu'on essaie de dire. Puis c'est le mémoire qu'on a envoyé pour faire des commentaires par rapport au règlement. C'est exactement ce qu'on dit dans ce mémoire-là.
Donc, si je suis votre logique, ou vous remplissez le formulaire d'exception, ou mon troisième enfant se cherche un médecin.
Exactement.
Il me semblait qu'il y avait une volonté de réduire la paperasse avec la CNESST. C'est comme si la machine rajoute de la paperasse. J'enlève des feuilles dans l'imprimante, mais j'en rajoute aussi en même temps.
Tout à fait. Puis là, le formulaire pour demander l'exception, là, on va l'envoyer comment? Par fax. On va l'envoyer par fax.
Bon.
Je dis pas qu'il n'y a pas du travail qui a été fait pour la paperasse. Là. C'est vrai, la CNESST, dans d'autres domaines, la SAAQ a aussi fait des efforts. Mais c'est comme si c'était plus fort. On a rajouté de l'autre côté. Donc, il ne faut pas juste en enlever, il faut arrêter d'en rajouter.
C'est pour quand le règlement?
Ben, je ne sais pas encore une fois. Ça, faut demander au gouvernement. Nous, on a bon espoir là que les commentaires que la population, que les intervenants ont fait, que nous on a fait, parce qu'on n'a pas été les seuls à émettre des commentaires sur ce règlement-là, qu'ils vont être bien pris en considération et cette partie-là sera pas présentée. Il y a l'autre partie des règlements qui concerne les données. Nous, on dit, ben, on est d'accord avec les données. Les médecins mettent déjà leur plage de rendez-vous sur le système électronique du gouvernement. Mais le problème dans le règlement, c'est qu'on dit le médecin doit transférer au ministre à chaque dimanche sa liste. Pourquoi le médecin? On les met sur le site du gouvernement qu'il aille s'approvisionner à ce site-là. Mais encore une fois, de la lourdeur, de la paperasse, des contraintes.
Vous comprendrez que même si on est un peu jovialiste dans la vie, puis positif, puis là, vous êtes à la radio du bonheur, Dr. Amiot, mais à un moment donné, là, on est comme... Coudonc, ils font-tu exprès? Je parle pas de vous, là. Mais c'est-tu normal de compliquer un système? Je lisais sur Taïwan en fin de semaine dans le journal de Montréal, là. Ça a l'air pas mal plus simple, pas mal plus vite. Puis c'est public, là. C'est pas... Il y a un montant, là, forfaitaire qui est demandé, là, puis pour s'assurer que les gens, bon, ben, ils se présentent à leur rendez-vous, puis tout ça. Là, nous autres, on a des listes d'attente. Des patients, il y en a qui se présentent, il y en a qui se présentent pas. Il y a des patients qui sont opérés dans des cliniques, des centres médicaux privés, puis des fois, il y a de la place, puis on pourrait en faire plus, mais il manque...
Je suis d'accord avec vous, mais je vais être bien clair, là, M. Arcan. Moi, les médecins de famille, là, ils veulent donner des services, ils veulent traiter la population, mais ils ont besoin qu'on les aide avec d'autres professionnels, des psychologues, des infirmières, des travailleurs sociaux, des physiothérapeutes dans les équipes. Hein. Ça peut plus reposer uniquement chez les médecins de famille. Puis longtemps, on a reproché aux médecins de famille d'être corporatistes. Là. Vous voulez pas en laisser aller. Là. Je pense que là, on n'est plus là du tout, du tout. Là. Je pense qu'il n'y a plus de doute là-dessus. Puis, je vais être bien clair, les médecins de famille sont là pour traiter les patients. Mais à un moment donné, il faut que ça soit réaliste.
OK, merci, Dr. Amiot. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Dr. Marc-André Amiot, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Un auditeur me dit que c'est aussi compliqué parfois que les explications de Martin Saint-Louis. Je parle pas du docteur, là, mais d'essayer de comprendre pourquoi t'as pas ta chaise ou la montagne pour... Il y a un monsieur qui m'écrit, qui vient d'ouvrir, c'est un gestionnaire là, d'une clinique médicale privée. Il a embauché un médecin de Montmagny, c'est un médecin qui est du réseau public de 57 ans, qui pour toutes les raisons dont on vient de discuter, a décidé que t'as assez, puis il s'en va vers le privé, puis je vais voir les patients que j'ai envie de voir sans être pris pour me justifier à chaque fois.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On parlait des bulletins. D'abord, c'est la presse ce matin qui nous apprend que dans deux centres de services scolaires, les élèves, c'est en tout cas ce qui est écrit, la base est de 180 jours. Or, il y a eu, dans certains cas, jusqu'à 22-23 jours de grève. Il semble qu'on n'a pas tenu compte de cette réalité, puis qu'on dit aux parents, voici un calendrier normal, puis on va comptabiliser seulement les absences, par exemple, pour maladie, pour toute autre raison, là, de votre enfant. Alors, il y a eu combien de jours d'enseignement? Ça a l'air compliqué à comprendre. Nicolas Prévost est avec nous, le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Expliquez-moi un bulletin, là. L'information sur le nombre de jours d'école, ça dit quoi précisément?
Bon, au niveau du bulletin scolaire, on doit inscrire le nombre de jours par étape. Hein. Vous savez, il y a trois bulletins. Donc, on doit inscrire le nombre de jours où l'école était ouverte, dans le fond, puis qu'on pouvait offrir un service à l'élève. Donc, si je prends une étape normale, exemple de 60 jours, dans un contexte normal, ben on écrirait 60. Et on marquerait un peu plus bas le nombre de jours d'absence de l'élève là, pour X, Y raison, maladie, deux jours d'absence, trois jours d'absence, des situations comme celle-là. Maintenant, dans une situation comme on a vécu comme au niveau de la grève, mais là, on peut pas écrire le 60 jours de l'étape parce que c'est pas ce qui a été fait, c'est pas ce que l'école a offert. Donc, dans des cas, ben, ça sera 52 jours, dans des cas, ça sera 40 jours. C'est ça qui doit être écrit, là, le nombre de jours que l'école a pu offrir un service à l'élève.
Expliquez-moi comment des centres de services scolaires font, alors qu'ils ont été fermés pendant 22-23 jours pour des grèves, écrire 180 jours?
Ben, écoutez, ça devrait pas, parce que quand on va faire le calcul à la fin de l'année des trois étapes, ben on devrait arriver au nombre de jours où l'élève a pu recevoir du service. Donc, dans le cas de la grève cette année, ben, dépendamment des centres de services, on va arriver à 160 jours, 170 jours, 172 jours. On ne peut pas atteindre le 180 jours. C'est pas ce qui a été offert de façon officielle.
OK, mais Alain Perron, qui est le porte-parole du Centre de services scolaires de Montréal, je le cite là à partir de la presse, dit que le nombre de jours de classe mentionnés au bulletin fait référence à des jours de calendrier entre le début et la fin de l'étape et non les jours de fréquentation.
Ben, écoutez, c'est nous, l'analyse qu'on en fait, puis on a bien pris le temps de relire les normes et modalités, ce qui est prescriptif, c'est vraiment d'inscrire le nombre de jours auxquels l'élève a eu droit à un service. Je vous donne un exemple. J'ai une étape complète de 60 jours. J'ai dû fermer mon établissement scolaire pour X. Bon, j'ai pas d'électricité cette journée-là. L'école n'a pas été ouverte. J'ai pas pu offrir un service à l'élève, mais je vais marquer 59 jours. C'est pas de la faute de l'élève cette journée d'absence-là. Donc, je vais diminuer mon nombre de jours. Maintenant, si l'élève est absent pour diverses raisons, comme je vous disais, maladie, ben là, on va le compiler dans des absences sur un 59 jours. Exemple, il y en a manqué deux pour gastro-entérite.
Oui, non, ça je comprends, mais qu'on indique le nombre de jours où l'enfant n'est pas présent pour les raisons que vous venez de nommer et d'autres, là, c'est une chose. Mais quand l'école n'est pas ouverte parce qu'il y a une grève ou une panne d'électricité, il ne faudrait pas faire croire aux parents que c'est une année normale, là.
Ben, vous avez tout à fait raison. C'est l'élève n'a pas eu accès à un service. Donc, nous, l'interprétation qu'on en fait, c'est d'inscrire le nombre de jours auxquels l'élève a eu un service. Puis, dans le cas d'une grève, il n'y a pas eu de service. Donc, on n'arrivera pas à un total de 180 jours à la fin de l'année.
Incroyable. Merci beaucoup. Toujours intéressant de vous entendre pour nous éclairer, M. Prévost.
Bien, ça me fait plaisir.
Bonne
journée, M. Arcand.
Nicolas Prévost est le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. En résumé, donc, il y a des écoles qui essayent de nous en passer une vite. Un centre de service scolaire en mettant le chiffre magique de 180 et en ne comptant pas les jours de grève où l'école était fermée, où le service n'était pas disponible. Et nous dit, ben non, c'est une référence tout simplement de calendrier. Et il semble que le ministère de l'Éducation va s'assurer que le bulletin soit conforme à la réalité. S'il y a eu 156 jours où les écoles étaient ouvertes, ben faut le dire, puis il faut le calculer comme ça. Puis il y a un autre qui m'a écrit ce matin pour me dire, ouais, mais c'est parce qu'il y a eu du rattrapage, donc ça revient au même. Hey, parle pas de la même chose du tout. Maintenant, on va aborder un volet intéressant, toujours en éducation, où on apprend qu'à l'école Monseigneur Richard, qui a à peu près quoi, 1500 élèves, il y a une technicienne en éducation spécialisée qui va avoir le mandat comme intervenante scolaire de sensibiliser les jeunes, on parle beaucoup des écrans, là, aux cyber-enjeux, le sextage, la cyber-intimidation, la dépendance aux écrans. Et on peut lire dans le Journal de Montréal que c'est un rôle qu'elle occupe là, depuis la rentrée 2022. Élise Duprat est avec nous. Madame Duprat, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Pourriez-vous m'expliquer concrètement, clairement, ce que vous faites?
Ça serait dur de vous expliquer ça en 5 minutes, mais je suis là pour sensibiliser, faire de la prévention dans le milieu scolaire, pour la prévention au niveau dépendance à l'écran, cyber-intimidation. Je fais de la prévention aussi sur tout ce qui est utilisation adéquate des appareils numériques. Au niveau scolaire, là, ceux qui ont des appareils numériques pour l'utilisation là pendant la classe, là. Donc, je fais tout ce qui a rapport aux écrans, que ce soit des appareils au niveau réseaux sociaux ou au niveau scolaire.
OK. Qu'est-ce que vous avez constaté comme problème, les problèmes les plus importants là, depuis que vous faites ça?
Il y a énormément de dépendance à l'écran, ça c'est sûr, mais c'est pas le problème que je vois le plus dans mon bureau. Il y a énormément de réglages de comptes sur les réseaux sociaux et tout ce qui est partage d'images. J'ai créé, dans le fond, un atelier qui s'appelle « Le droit à l'image », parce qu'il y a énormément d'expose, là, je prends le terme utilisé par les jeunes, mais l'expose est énormément présent sur les réseaux sociaux. C'est de prendre une photo cocasse, drôle ou insultante de quelqu'un et de l'exposer sur les réseaux sociaux pour ridiculiser la personne ou carrément nuire à sa réputation.
Avant, la technologie, l'intimidation existait dans les cours d'école, mais ça s'arrêtait à la fin des cours de façon générale, puis il n'y en avait pas la fin de semaine. Là, cette forme d'intimidation que vous décrivez, là, ben c'est 24 sur 24, 7 jours par semaine.
Effectivement, puis c'est pour ça que je suis disponible pour mes élèves sur les réseaux sociaux moi-même. Donc, je réponds à mes messages les soirs et la fin de semaine. Ça fait partie de mon mandat. Bon, je réponds pas pendant la nuit, mais
non.
Je suis disponible pour leur répondre via les réseaux sociaux qu'eux autres mêmes utilisent. puis je réponds à leurs besoins plus rapidement. Dans le fond, c'est simplement pour apaiser la crise au moment où elle a lieu, puis après ça, de les rencontrer à l'école, puis de régler cette situation-là au niveau de la scolaire. Mais effectivement, les problèmes ont lieu les soirs, la fin de semaine, puis la gradation va se produire beaucoup plus les soirs et la fin de semaine que pendant qu'ils sont à l'école et qu'ils n'ont pas accès à leur téléphone.
Dites-moi en quelques mots, je sais que c'est pas facile comme question, là, mais comment ils se sentent, nos élèves à votre école, là, Monseigneur Richard, il y en a 1500, c'est, pour un certain nombre, c'est angoissant d'aller à l'école, d'être intimidé, d'être victime de partage de photos qui font pas l'affaire. L'état d'esprit de ces kids-là, c'est quoi?
Je crois, sans vanter le service que nous offrons depuis l'an dernier, qu'il y a un sentiment de sécurité qui s'est installé au sein de l'école parce que on a pu noter depuis l'an dernier qu'il y a vraiment une diminution du partage d'images sans le consentement présentement au sein de l'école. Il y a une diminution aussi de la cyberintimidation à l'intérieur de l'école vu la prévention que je fais à l'intérieur de l'école puis à l'intérieur des classes. Vu que je suis présente dans les classes, je fais des ateliers au niveau scolaire. Je suis présente comme secondaire 1, j'ai l'atelier de droit à l'image où je passe à l'intérieur de chacun des groupes. On a noté quand même une diminution des cas de partage de droit de partage d'images sans le consentement. Donc, moi, je pense que le sentiment de sécurité à l'intérieur de notre école a augmenté.
Il y a un parent de Mgr Richard qui m'a écrit ce matin, puis je ne donnerai pas de détails, là, faut respecter la confidentialité, mais essentiellement, il m'a dit que vous aviez réussi à désamorcer plusieurs crises, que vous aviez apaisé le jeu, et ce qui aurait pu traîner dans le décor avec un risque, je dirais, d'aggravation, vous avez comme étouffé l'affaire. Ça vous est arrivé souvent depuis un an?
Ben, comme j'ai dit au Journal de Montréal, c'est que la majorité des écoles vont lever le tapis puis vont mettre ça en dessous du tapis en disant ça nous concerne pas, ça se passe pas dans les heures scolaires, ça se passe après l'école, ça se passe la fin de semaine, ça se passe et on travaille pas. Je comprends la situation puis je pense que M. Millette a compris que c'est problématique-là puis c'est notre directeur d'école qui a créé ce projet spécial-là. Il a compris que ces problématiques-là qui se passent la fin de semaine se répercutent sur nos élèves pendant la semaine. Donc, la problématique qui va se passer la fin de semaine, qui va arriver le lundi matin, qui va être un petit grain de poussière, ben elle va grossir pendant la semaine, puis c'est sûr qu'elle va devenir quelque chose qui va être envahissant pour nos élèves. Fait qu'effectivement, à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter de lever le tapis puis balayer ça en dessous. Il faut les traiter, ces problématiques-là. Il faut arrêter de penser que vu que ça se passe pas à l'école, que ça ne touche pas nos élèves. Fait que je crois que oui, j'ai traité certaines problématiques qui auraient pu s'envenimer beaucoup plus facilement puis qui auraient pu probablement peut-être devenir une bagarre en avant de l'école puis aller dans le journal de façon négative le lendemain matin.
Parce qu'on en a vu là, des cas de bagarre puis sur le terrain de l'école ou pas loin, dans un parc et tout ça. Là, c'est pas, ça arrive assez souvent malheureusement, là.
Effectivement, puis je pense vraiment que de traiter ces cas-là, puis de penser que c'est important de les traiter, ça devrait être traité dans toutes les écoles du Québec, il devrait avoir une élise en cyber en jeu. Ça devrait être traité toujours de façon importante dans chacune des écoles, puis arrêter de se dire, ah ben c'est, ça se passe le soir, ça se passe la fin de semaine, puis c'est pas important, on devrait... Je comprends les écoles de traiter les choses qui se passent en vrai et dans la réalité, que c'est très important à être traité, mais je pense que ça reste une problématique importante à traiter quand même, qui est en parallèle à leur problématique, mais qui reste un enjeu très important pour eux.
Et vous êtes la seule au Québec à faire ça?
Ben, dans ce que j'ai fait comme recherche, parce que c'est sûr que quand j'ai commencé à travailler, il a fallu que je me bâtisse une expertise que j'avais pas de collègues qui faisaient ça, puis j'ai fait une petite recherche pour voir si j'avais quelqu'un sur lequel je pouvais me baser pour avoir une expertise, et il y a personne qui fait ça à temps plein. Donc, de ce que je sais, je suis la seule au Québec qui fait ça à temps plein présentement.
Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bravo.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Élise Duprat, qui est technicienne en éducation spécialisée à l'école Mgr Richard de Verdun, 1500 élèves, et Mgr Richard, historiquement, a toujours développé des projets. Je me souviens de l'accès à l'informatique pour les gars, entre autres. Pas que pour les gars, mais on avait trouver une façon d'intégrer l'informatique, le sport, pour justement éviter que ces jeunes-là décrochent. On parlait de sport, on parlait de dépendance aux écrans. Hier matin, je vous parlais de ce cas Rivière-du-Loup, où des jeunes qui jouent au hockey dans la rue, comme on a tous joué à un moment ou à un autre au hockey dans la rue, ont reçu la visite de quelqu'un de la ville pour leur dire que finalement, ben, il faudrait peut-être pas faire ça parce qu'il y a eu une plainte, puis ça peut amener une amende. Danny Ducas est avec nous. Il est le père de quelques de ces joueurs-là, puis aussi prof en éducation physique. Monsieur Ducas, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Donc, vous avez des jeunes qui jouent au hockey dans la rue. Pourriez-vous me décrire un peu dans quel genre de rue on pratique le hockey?
En fait, c'est une rue qui est cul-de-sac, avec un nouveau développement au bout de la rue quand même qui vient de se construire. Pardon. Puis c'est une rue familiale là, sur environ 300 mètres. Là, il y a 45 enfants en bas de 13 ans. Donc, tu sais, c'est un quartier résidentiel tranquille où est-ce que d'habitude, quand tu n'as pas affaire à aller là, tu n'as pas besoin de venir te présenter. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé un peu bizarre là, la plainte qui a été logée à notre endroit là, sur des enfants qui doivent walker dans la rue.
OK. Sauf erreur, là, vous êtes là depuis 2 ans. Vous êtes avec votre conjointe à la tête d'une famille recomposée. Il y a 4 enfants de 6 à 10 ans. Puis ce sont eux qui jouent?
Oui, effectivement, avec des voisins du voisinage, souvent quelques petites parties en avant improvisées de 5, 6, 7, 8 enfants qui jouent, pas juste au hockey, là. C'est le hockey qui a été mis en valeur, mais des fois c'est le soccer, des fois c'est le basket, mais c'est à tout le moins une appropriation un peu correcte de la rue là, selon le voisinage et tout ça. C'est sûr et certain qu'on est dans un endroit où est-ce qu'il y a un terre-plein dans le milieu, donc une préparation de la voie. Les enfants utilisent souvent un côté de la voie, la majeure partie du voisinage souvent passe de l'autre côté du terre-plein, du petit rond-point. Et je pense que c'est un peu ce qui a dérangé la ville là, et le voisinage là, du fait que ça pouvait créer des problèmes là, de circuler à contresens et tout ça. Là.
Est-ce que, jusqu'à tout récemment, vous aviez eu des plaintes des gens qui avaient téléphoné à la ville ou étaient venus voir les enfants, venir vous voir en disant « là, c'est pas acceptable »
Non, c'est la première fois qu'à ce sens, on voyait ça. Souvent, des gens arrêtaient en voiture, regardaient les enfants. Puis, tu sais, ça demeure des enfants. Des fois, ils portaient pas nécessairement attention aux voitures. La plupart du temps, ils tassaient les buts, mais c'est arrivé dans le passé là, que les buts étaient peut-être pas tassés assez vite au goût des conducteurs. Donc, ils empruntaient l'autre côté du rond-point à ce moment-là. On a fait de la sensibilisation un peu avec nos enfants aussi, à leur dire la rue n'est pas juste à nous, là, elle appartient aussi quand même aux citoyens qui veulent circuler. La plupart du temps, on faisait attention quand même à tasser les buts, c'est peut-être arrivé dans le passé, c'est peut-être ce qui a frustré certains résidents ou voisins qui se sont présentés là puis qui ont dû faire une circulation à contresens là, dans le rond-point.
OK, mais comment vous avez su qu'il y avait une plainte?
En fait, quand je suis arrivé à la maison, il y avait un petit bout de papier qui était collé sur ma porte et je devais appeler à la municipalité soi-disant pour quelque chose qui était hors norme. Quand j'ai téléphoné, on m'a dit, la dame m'a dit, ben je suis dans le coin, hein, monsieur Ducas, je vais venir vous voir en personne pour vous expliquer la situation. Quand elle est arrivée à la maison, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Nous, on a eu une plainte de quelqu'un qui a peut-être la sécurité de vos enfants à cœur et qui a aussi la sécurité routière à cœur et qui trouvait très ordinaire que vos enfants jouaient dans la rue. À ce moment-là, j'ai demandé est-ce que c'est en raison du rond-point, mais elle nous a dit non, le règlement municipal, c'est une interdiction de jouer sur la voie publique. Donc, je lui ai dit, est-ce qu'on peut se tasser? Ben, elle me dit, tu sais, monsieur, je peux pas vous dire oui, mais selon le règlement, la réponse, c'est non.
OK. Vous êtes allé au conseil municipal?
Oui, effectivement, hier soir, on était 6 parents qui étaient là pour essayer de faire entendre un peu notre point de vue au conseil municipal. Il y a quand même eu une ouverture, je dirais, M. Arcan, à ce niveau-là. Les élus trouvaient que l'ampleur médiatique avait été grande quand même pour cette histoire-là. Je peux les comprendre aussi, mais je pense que si on veut faire bouger les choses, des fois, ça prend plus qu'une simple voix d'un citoyen. Et à partir de là, quand même, je dirais là, l'ouverture de peut-être changer le règlement ou d'adoucir la politique famille et dans les plans éventuels, à savoir combien de temps ça prendra. Je peux comprendre que Paris c'est pas construit en une journée, mais espérons que ça prenne pas 1 an et demi, 2 ans là, à modifier le règlement ou à modifier la politique famille. Surtout sur des enjeux qui sont dans un quartier résidentiel familial. C'est pas une voie passante et tout ça. On peut comprendre que sur une voie passante, ce serait plus problématique, mais dans cette situation-là, c'est une voie qui est assez tranquille en circulation à l'habitude.
OK. Là, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais est-ce que vos enfants jouent encore dans les rues au hockey?
Présentement, comme vous avez décrit la situation, on est une famille recomposée. Puis depuis ce temps-là, ils sont partis chez leurs parents pour la semaine, leurs autres parents. Mais on a l'intention quand même de retourner jouer dans la rue en continuant en faisant de la sensibilisation, à leur dire, c'est les enfants, c'est important que quand il y a des voitures, que vous preniez le temps de tasser vos affaires, que vous preniez le temps d'arrêter votre jeu. D'un, c'est pour votre sécurité, c'est ce qu'on va leur dire, puis de pas frustrer et de pas créer des imbroglios avec les gens du voisinage ou des visiteurs éventuels qu'il pourrait y avoir.
OK. De façon générale, comment vous pourriez qualifier vos relations avec vos voisins?
C'est une rue super super familiale. On a un groupe de discussion sur un média social où est-ce que tout le monde se parle en général. Quelqu'un qui a oublié un ballon chez un tel, c'est écrit sur le réseau social. Le petit Maxime, supposons, est rendu chez Martine, ben on va le savoir aussi sur le réseau social. C'est super convivial, c'est vraiment une rue familiale où est-ce que tous les voisins se parlent de façon générale. Puis j'ai de la misère à cibler qui aurait pu faire cette plainte-là. Là. Est-ce que c'est simplement un passant qui avait la sécurité à cœur d'un des enfants? On n'a pas voulu me dire c'était qui, puis je comprends aussi la raison pourquoi qu'on me l'a pas dit, là. Mais effectivement, je pense que de retourner à jouer dans la rue, ça va être quelque chose de possible.
OK, merci M. Ducas. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir. Danny Ducas est père, donc, et avec ses enfants, ceux de sa femme et tout ça. Ça joue au hockey dans la rue, puis là, ça a dérangé. Puis je le sais, toujours pareil, il y a des gens qui font ça parce qu'ils trouvent que c'est dangereux. On sait qu'au Québec, on trouve bien des affaires dangereuses, là. Mais là, je rappelle que c'est un quartier familial, c'est un cul-de-sac. Puis vous avez joué convaincu dans la rue. J'ai joué au hockey dans la rue, puis on se tassait là, puis c'était des rues de quartier résidentiel. Puis qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu ça. Mais hier, j'ai reçu un déluge de bêtises. Les gens, on a droit à notre quiétude. D'autres, des avocats de la sécurité. Alors, on verra comment la ville va réagir. Puis c'est sûr que la ville n'a pas dû aimer ce genre de publicité.
C'est 23.